Obtenez le guide en ligne à canadiensensante.gc.ca/santé à la maison ou à votre centre de santé. Un message d'intérêt public du gouvernement du Canada et de cette station.
La radio de vos plus beaux souvenirs. 1570 AM Laval.
CJLV 1570 Laval vous présente l'émission la plus complète du fabuleux monde de la lutte professionnelle. TOW Radio Show. Une présentation de Pink Paradise et Monsieur Fun.
Bonsoir à tous. Je savais que ça allait décoller sur cette affaire-là. Pourtant, j'avais pesé sur stop, mais ça a décollé quand même. Ça commence mal une émission, hein, Pat?
Tout un début, Patrice.
Ta-ta-da-da. Si on pourrait rebobiner la cassette et puis recommencer le tout, on le ferait, mais malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Bref, bonsoir à tous. Bienvenue à cette quatrième édition du TOW Radio Show. Nous sommes en direct au 1570 AM dans la région de Laval, Montréal et les environs. Et pour ceux qui nous écoutent du côté d'Internet du côté provincial, www.1570.ca. Je t'ai dit bonjour en avance, mais je vais recommencer quand même. Je voudrais saluer Patrick Laprade, mon collaborateur des deux dernières semaines. Salut, Pat.
Salut, Patrice. Ça va bien?
Ça va super bien. Merci d'être encore là au rendez-vous ce soir. C'est très, 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 très apprécié.
Toujours un plaisir.
Yeah! Je veux saluer également Patricia Molloy. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va très bien.
T'as une meilleure voix que ton écriture sur
merci.
On t'entend jamais parler, donc c'est super intéressant. Grosse émission comme à chaque semaine. Ce soir, on va parler à Marc Blondin qui revient de Belgique. Marc, Pat n'est pas en studio aujourd'hui à cause du décalage horaire, donc on va parler par téléphone avec Marc tout à l'heure vers les 21h25. On aura un invité spécial, Simon Dean, qu'on a connu avec la ECW et puis la WWE lorsque Sylvain Grenier fera son apparition en studio. Pat, je te remercie d'avoir convaincu ton homologue américain. Je l'appelle le Pat Laprade américain, Dave Meltzer, qui sera là.
C'est correct, il y en a d'autres qui disent que je suis le Dave Meltzer du Québec, donc...
C'est ça, donc pour que les gens se situent, Dave Meltzer, de toute façon, tout le monde le connaît, c'est un... Est-ce qu'on peut dire un paparazzi?
Non, c'est un journaliste...
un journaliste sportif.
Journaliste sur la lutte professionnelle, peut-être le plus connu à travers les États-Unis et peut-être à travers le monde, dans le sens que, bon, via son newsletter qu'il a depuis maintenant plus de 30 ans et le site web le Wrestling Observer, c'est quelqu'un qui a acquis une notoriété avec les années. Il fait pas toujours l'unanimité, tout comme moi, tout comme toi, Patrick. Alors, c'est quelqu'un avec qui je pense que tu t'entendrais bien, parce que moi, je m'entends bien avec. Et aujourd'hui, il va nous parler, parce qu'aujourd'hui, Patrice, c'était la sortie du DVD de Greatest Rivalries, Shawn Michaels versus Bret Hart, que tu as entre les mains, que j'ai eu la chance d'écouter avant d'arriver en studio. Quel DVD, mesdames et messieurs, c'est vraiment, en tout cas, à mon avis, à moi, un achat que tout fans de lutte devrait faire, que vous devez avoir dans votre collection de DVD. Et on va interviewer un expert en la matière, parce que Dave Meltzer a couvert cette rivalité, et bien sûr... le fameux match du Montreal Screwjob au Survivor Series 97. Alors, on va l'avoir en entrevue pour nous parler de ça.
C'est vrai. Dave Meltzer, qui était un invité, qui était souvent invité à l'émission Off the Record sur TSN, qu'on voyait très, très, très souvent lorsqu'il parlait de lutte. Et puis, ça va être super intéressant de l'entendre parler. T'as ouvert la porte que j'attendais que t'ouvres, Pat. Les plus grands fans de lutte au Québec. Je pense qu'ils se trouvent en ce moment derrière les micros. Je parle de toi, moi. Patricia Molloy, je dis tout le temps Molloy.
Molloy.
Molloy. Molloy.
C'est donc bien compliqué,
cette affaire-là. Et puis, avant de débuter l'émission, on parlait justement hors d'onde des marques, des fans. Je pense qu'on est tous fans de ce fabuleux monde qui est la lutte professionnelle. Patrick, sans prendre deux heures pour compter ta vie, c'est quoi le souvenir le plus loin que t'as concernant la lutte professionnelle, que t'as accroché?
Écoute, où j'ai accroché, c'est un dimanche matin, parce que moi, les dimanches matins, c'était une religion. Fallait que j'écoute la lutte à Télé 7 Sherbrooke. C'était Lutte Internationale qui était là à ce moment-là, dans les années 80. Et le moment-là qui m'a vraiment accroché, il y avait eu une rivalité qui impliquait Rick Martel avec Sailor White et Rick Valentine, pas Greg, mais bien Rick Valentine, qui luttait sous le nom de Kerry Brown dans d'autres territoires, un gars de Winnipeg, Sailor White qui était un gars des Maritimes, et à un moment donné, ils ont fait un angle où Rick Martel se fait tout simplement étranglé avec un cintre, un support à linge.
Okay.
Et la bave, l'écume plutôt, lui coulait. Pour un enfant, écoute, je devais avoir à ce moment-là 6 ou 7 ans. C'était vraiment impressionnant. Il y a Dino Bravo qui est venu sauver son ami par la suite, qui a mené à une petite rivalité entre les deux avec White et Valentine. Et c'est probablement le moment là qui m'a vraiment, vraiment, vraiment accroché et que j'ai encore là dans ma tête là, très, très clair. Et mon collègue Bertrand Hébert qui a été capable de retrouver ça dans ses vieilles cassettes de lui, qui m'a mis ça sur DVD récemment. Et écoute, j'en avais presque les larmes aux yeux quand j'ai écouté ça récemment.
C'est excellent. Même moi, si je peux me rappeler le plus... mon souvenir le plus lointain, j'avais 10 ou 11 ans. Ben, je suis originaire de Chibougamau. Ça, c'est pas un secret pour personne. Ben, peut-être que oui. Mais bref, ceux qui me connaissent le savent. Ça passait à CJPM, qui était le réseau de Chicoutimi. Il y avait l'émission qui passait à 22h, puis il y avait eu un tournoi pour la ceinture intercontinentale qui justement opposait Tito Santana face à Rick Martel, qui avait son parfum Arrogance. Je pense que c'était Mr. Perfect qui avait remporté le tournoi en bout de ligne, mais je me souviens pas du tout du reste. Bref, c'est ce qui m'a fait accrocher. Et puis, ça m'apporte à notre co-animatrice qui est responsable du développement des affaires à la TOW, Patricia Molloy.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Toi, ton souvenir, Patricia, c'était quoi? Ton plus lointain souvenir?
Ben, le plus lointain souvenir, je me souviens dans les années 80 où j'allais écouter la lutte chez mon grand-père. Donc, les dimanches, on allait chez mon grand-père parce que moi, je suis originaire du Saguenay. Donc, mes parents sont au Saguenay. Et c'est ça, on allait voir mon grand-père. Ben, je dis ça parce que avant, j'habitais en Ontario. Donc, dans le temps que j'étais au Saguenay, on allait voir mon grand-père.
Je trouvais que ça faisait pas Molloy, hein, Saguenay avec Saint-Jean.
Je me disais, ça faisait anglais, Molloy. Il y avait de l'anglais à quelque part.
En tout cas, on écoutait ça, moi et mon frère, le dimanche, mais je dirais, j'ai pas de souvenir de combat en tant que tel, à ce moment-là. J'ai vraiment accroché dans les années 96, 97. Avec la WCW, la WWE. Okay. Là, j'ai commencé à accrocher, puis je l'écoutais religieusement.
C'est curieux quand même. Comment tu t'es ramassée, Patricia, à être impliquée dans la lutte à Montréal?
En fait, je me souviens, l'année passée, c'est drôle parce qu'on en discutait tantôt,
c'est
l'année
vrai.
Passée, le 9 janvier, plus précisément, 2010, j'avais envoyé un courriel à Marc Blondin pour lui dire que je voulais l'aider bénévolement à organiser le prochain événement de son prochain événement de TOW.
OK.
Puis ça a parti de là. Là, il m'avait dit dis-moi qu'est-ce que tu peux faire pour
mais qu'est-ce que tu as écrit pour le convaincre pour qu'il te réponde?
Tu veux que je lise le courriel que j'ai envoyé?
Parce que ceux qui ne savent pas, écoute, Pat, faut que je te le dise.
C'est Marc.
Je vous écoute.
Pat qui s'emmerde, il ronge ses ongles, il nous écoute comme des enfants. On a envoyé, moi puis Patricia, un courriel à Marc.
On se connaissait pas.
On se connaissait pas, non. La même journée à une heure d'intervalle. À quelle heure t'as envoyé ton courriel, toi?
Je l'ai envoyé à 16h21.
Moi, 17h24 et 20 secondes.
C'est quand même spécial.
C'est spécial. Patricia, c'est plus
un
comme
roman. Des jumeaux cosmiques.
Ben écoute, on a les mêmes initiales. Patricia Molloy, PM, Patrice Maltais, PM.
J'avais compris, là.
Ouais, non, mais c'est bien de finir nos phrases, hein. Ben, lis une partie de ta lettre, m'en tenir la mienne après. Okay. Elle est pas mal moins longue que la
ouais,
tienne.
Quand même longue.
Vas-y.
Puis je m'étais préparée, là. Ça m'avait peut-être pris 3-4 jours, là, avant de l'envoyer, parce que je voulais pas l'envoyer le soir. Je me suis dit, ah, tu sais, il lira peut-être pas. Mm-hmm. Moi, j'attendais le bon moment. Donc, 16h20.
C'est vrai, vas-y.
Donc, bonjour, Monsieur Blondin.
ça commence mal.
Je vous envoie ce courriel parce que je voudrais vous offrir mes services pour organiser votre prochain gala de lutte. Je suis une grande amateur de lutte et j'adore tout ce que vous faites. Je vous connais déjà depuis longtemps. Je vous vois souvent à la TV. Vous me faites beaucoup rire. Je me souviens de Le Tourneur. Il est rendu où?
Le Tourneur. Tu rappelles-tu Le Tourneur?
Michel Le Tourneur, quand mal l'oublier.
Mm-hmm. Continue, Patricia.
J'écoute, j'occupe présentement un poste d'adjointe en vente et marketing depuis 4 ans, mais je me suis rendu compte que ce que j'aime vraiment, c'est organiser des événements. Si jamais un poste devient disponible au sein de votre entreprise, veuillez, s'il vous plaît, considérer ma candidature.
C'est
je
bon.
Je vous envoie mon CV.
C'est bon, parce que c'est là que tu as été, Marc, t'as répondu, t'as offert. Moi, j'ai écrit pas mal la même affaire que toi, sauf que moi, j'avais eu l'opportunité de faire une entrevue avec Marc Blondin du temps où ce que j'étais animateur de radio à Radisson. Juste faire une parenthèse comme ça, j'avais envoyé deux chandails à Marc avec des casquettes à l'effigie de la station de radio où ce que je travaillais. La semaine d'après, Marc m'écrit en me disant « J'espère que t'as un sens de l'humour parce qu'on a fait quelque chose en onde avec tes chandails. » Donc, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Puis, en commençant l'émission, je vois Sylvain Grenier qui porte mon chandail de la station de radio puis ma casquette en commençant l'émission, parce qu'une émission de télé, c'est là où il y a les plus grandes cotes d'écoute quand l'émission commence. Donc, faire wow! Ma station de radio de Radisson à Bay James, qui est perdue dans le Grand Nord, a sa visibilité. Et puis, Marc dit à Sylvain, il dit, en parlant de commandite cheap, c'est quoi ce polo lait-là que tu portes? Donc, là, Sylvain, il dit, c'est toi qui voulais que je porte cette commandite-là. Puis, Sylvain, il a déchiré mon chandail à télé. Puis, il a tiré le chandail à la caméra, et puis j'avais eu vraiment des tomates venant de la population de Radisson. Certains disaient qu'on faisait rire de nous, et puis c'était drôle, mais pas drôle. Ça a été le début du commencement de la fin pour moi à Radisson. Bref, ça a été toute une aventure. Et puis lorsque je suis déménagé à Montréal, j'ai écrit en janvier 2010, le 9 janvier, quasiment une heure après toi. J'ai dit « Salut Marc, je sais pas si tu te rappelles de moi. Nous avions fait une entrevue à la station de radio de Radisson l'hiver dernier et tu m'avais donné de la visibilité lors de ton émission de lutte. J'ai quitté Radisson et j'ai aménagé dans la grande ville et je suis à la recherche d'emploi. Je vais te remettre mon CV si jamais tu te recherches un nouvel analyste et si jamais Kelly tombe malade ou quoi que ce soit. J'ai une très grande connaissance dans le milieu de la lutte professionnelle. Merci de donner suite à mon envoi. » Ça, c'était avant que je fasse la connaissance de Patrick Laprade, parce que là, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose.
Arrête, je
te jure. Je te jure,
Les connaissances, tout est relatif, je veux dire. C'est une question c'est une question d'avoir lu et recherché. Bien franchement, le livre que moi et Bertrand Hébert, on a écrit, m'a aidé beaucoup à en apprendre encore plus. Je veux dire, il y a 4 ans, j'en connaissais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Puis, il y a 6-7 ans, j'en connaissais encore moins sur comment un gala de lutte devait être organisé, comment un lutteur devait performer. Je veux dire, j'ai 10 ans, bon oui, j'ai écrit une chronique récemment sur RDS parce que ça faisait 10 ans que j'étais impliqué dans la lutte professionnelle au Québec, mais je veux dire, 10 ans, c'est rien quand je m'assois puis je parle à Gino Brito qui a commencé dans les années, à la fin des années 50. C'est rien quand je m'assois avec Paul Leduc qui va bientôt fêter ses 75 ans puis qui a je sais pas combien d'années, qui a 50 années derrière la cravate.
Est-ce que t'as encore le wow d'un fois quand tu parles avec un lutteur, une personnalité de la lutte?
Oui, absolument. Je veux dire, tu sais, tu disais tantôt, on est tous des fans. On a tous commencé de cette façon-là. Puis encore des fois aujourd'hui, je sais pas, moi, je rentre, je vais chez Gino Brito pour jaser quelque chose. Il m'offre une bière, on s'assoit dans son salon puis on jase de lutte. Je me rappelle qu'enfant, à, je sais pas moi, 10-12 ans, je l'avais rencontré au Forum dans le temps qu'il était promoteur pour la WWF et je lui avais demandé un autographe. C'est quelqu'un que je voyais à la télévision dans les années 80, à chaque semaine ou presque. Et des fois, j'ai encore un peu de difficulté à me dire « Tabarnouche, je t'essaie avec Gino Brito, puis on parle comme si on se connaissait depuis plusieurs et plusieurs années. » Il me parle comme... il parlerait à n'importe quelle autre personne impliquée dans ce monde-là ou qui connaît depuis que lui est impliqué là-dedans. Et des fois, c'est assez incroyable.
Ça serait intéressant de l'avoir, Paul Leduc, un de ces jours, en entrevue pendant notre émission. Écoutez, je dois déjà nous interrompre. On doit aller en pause publicitaire. Au retour, Pat, on va parler un petit peu du DVD que moi j'ai reçu par la main aujourd'hui, que j'étais très content. Puis,
moi j'ai la version Blu-ray.
Ouais, t'as la version Blu-ray, hein, tu vois. Moi, je suis trop pauvre encore. J'ai encore mon Xbox qui sert de DVD. Bref, on s'arrête quelques instants. Vous écoutez bien sûr TOW Radio Show. Plusieurs invités ce soir. Vous nous écoutez au 1570 AM à Laval. Également sur le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show en compagnie de Patrice Valtet et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Voici un message amusant. Le monde de Monsieur Fun est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'animation depuis 1984. Vous êtes à la recherche de services pour vos événements des fêtes de Noël? Que ce soit un DJ, un animateur, soirée thématique, fête d'enfants ou autre, le monde de Monsieur Fun saura vous servir. Il reste encore quelques disponibilités pour la période de Noël, mais faites vite! 1-800-66-LE-FUN, 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun au mfun.com.
Hi, this is Mr. Anderson. Anderson of Impact Wrestling, and you are listening to the TOW Radio Show.
Déjà de retour à l'émission TOW Radio Show avec Patrick et Patricia. Donc, on est les trois pattes. Ça va devoir s'appeler les pattes.
On non? Pourrait.
Ouais, OK, non, c'est pas. C'était nul, hein, comme, c'était nul comme commentaire. Sorti aujourd'hui, The Greatest Rivalries, Shawn Michaels versus Bret Hart, un DVD de trois disques, Patrick.
Deux en Blu-ray.
Deux en Blu-ray, ouais, c'est ça. Je sais pas, hein, on dirait que je vais faire rire dedans. Moi, je devrais m'acheter ça, un Blu-ray, qu'est-ce que t'en penses?
Ben non, mais écoute, c'est vraiment, là, c'est trois en DVD normal, tout simplement, parce que ça prend plus de place sur un DVD normal, mais c'est vraiment quelque chose que comme je disais tantôt, on va en parler, là, mais je suis content que tu l'aies, parce que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait... Pourquoi... Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas c'est quoi, ça, cette affaire-là, mais c'était plate, on va arrêter ça tout de suite. Je sais pas, un petit problème de... Petit problème technique, c'est des choses qui arrivent. Désolé, Pat.
Donc, ce que je disais, c'est que c'est vraiment quelque chose que tous les fans devraient avoir. D'ailleurs, j'ai même eu pendant qu'on parlait tantôt un message Facebook, bon.
Hein? C'est qui, ça? Pas vrai. Il y a le culot de venir nous interrompre pendant notre show de radio.
Ça sent...
Oh,
ça...
Oui, là, sacripant, on arrête de parler de témoignages, hein, je vais me mettre à pleurer.
Ça sent le Mumba, monsieur.
Oh non, Handsome GF. Qu'est-ce que tu fais là, notre show, Handsome GF?
Ben là, je suis venu vous parler du nouveau champion québécois de la NCW.
Ah!
C'est qui le nouveau champion? Tu vas-tu nous en parler un peu?
Handsome GF! NCW!
OK, et puis, qu'est-ce qui te donne le droit d'interrompre notre show de radio qui est écouté internationalement, sauf en Chine, monsieur le nouveau champion?
Ben là, c'est que j'ai joint la liste des grands champions de la NCW. Voulez-vous que je nomme des noms?
Vas-y, on t'écoute.
Frank Blues, Dream Killer, le géant golem de CC3, Frankie de Montfeu et Sylvain Grenier.
Wow! Est-ce que t'as eu de la misère à remporter ton match? Est-ce que t'as eu recours à l'agence?
D'après toi, Patrick, est-ce que j'ai besoin de me faire aider pour gagner des matchs?
J'imagine que non.
Mais écoute, JF, je m'excuse de te dire ça, mais selon les résultats que j'ai lus, tu as eu besoin d'aide quand même pour ce match-là, et ce n'est pas de l'agence que tu as eu besoin d'aide.
Non, mais écoute, moi, j'avais les yeux fermés. S'il est arrivé de quoi, là, je m'en suis pas rendu compte. Un peu comme quand Patrice Maltais arbitre, là, il vaut pas grand-chose.
Ah, oh, c'est pas gentil, ça.
Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas été à la NCW samedi dernier, effectivement, Jay Phenomenon, l'ancien, le champion déchu, défendait son titre contre Ansem JF. Et à un moment donné, durant le combat, les lumières se sont fermées. Samson et James Stone sont apparus pour venir donner un mauvais parti à Jay Phenomenon. Puis par la suite, il y a l'agence qui est arrivée, Leon Saver et Urban Miles. Dan Payson est arrivé également. Et écoute, vraiment, là, ça l'a surpris tout le monde. Dan Payson s'est tourné contre Jay Phenomenon pour rejoindre ses amis d'enfance, Samson et James Stone. Et pas longtemps par la suite, Ansem JF, qui s'est ouvert les yeux et qui a pu profiter de cette intervention pour remporter le titre. Un titre, JF, que t'as gagné d'une façon quand même discutable, disons-le.
Ben, moi, je me rappelle pas de ça. Je pense que j'étais au bar en train de prendre une coupe de shooter de Grey Goose, parce que moi, quand je suis revenu au ring, il était couché par terre, puis j'en ai profité, parce que je suis le grand blond sournois, donc j'en ai profité. J'ai pas vu ce qui est arrivé. Trop de Grey Goose, je pense.
Mais moi, j'ai une question parlant de Grey Goose, JF. Ric Flair avait la réputation lorsqu'il était à la NWA, puis il était le champion, d'être un party animal, vraiment de faire la fête au champagne et tout ça. Est-ce que t'as célébré ta victoire au Mumba après ta victoire et ton premier championnat québécois de la NCW?
Effectivement, j'étais allé au Mumba tout de suite après le show, mais présentement, je fais la fameuse tournée de célébration des belles valeurs.
Est-ce que t'as apporté de la ceinture avec toi?
Ben oui, vous parliez de DVD tantôt, on est en train de tourner le fameux DVD des belles valeurs. Puis qu'est-ce qu'il va y avoir, ce DVD-là? Je suis présentement à Québec. On fait une tournée mondiale. On commence à Québec. Il va y avoir des jumeaux, des féfilles, de la Grey Goose, du spa. Donc, votre petit DVD Bret Hart contre Shawn Michaels, là, j'en parlerai même plus parce que ça accotera même pas le DVD des belles valeurs.
Est-ce qu'il va y avoir un Ansem JF et un Coyote?
Si le Coyote va amener ses pièges à Québec, il est bienvenu.
Mais est-ce que Ansem JF va montrer au Coyote comment attraper des bip-bip?
Ah, c'est sûr qu'Ansem JF est toujours là pour donner des trucs, pour maganer, pour finir la soirée des belles valeurs, c'est sûr. Là, on peut même faire une chronique là-dessus, M. Maltais, peut-être que ça pourrait vous aider vous aussi.
Et maintenant, JF, ce qui est le plus remarquable, c'est que tu peux aussi donner des trucs en tant que champion de la NCW. Comment devenir champion par Ansem JF?
Effectivement. C'est très facile pour paraphraser notre ami Sonny Workload. Le gym, les bottes de lutte et le bronzage.
Ansem JF, est-ce que Jay Phenomenon aura droit à un rematch? Est-ce que t'as déjà un adversaire en vue ou bien tu défendras pas ton titre pour X période de temps?
Mais c'est sûr qu'après une grosse victoire comme ça, Ansem JF mérite un peu de repos. Malheureusement, on m'a imposé pour le 5 novembre prochain un adversaire, l'inoxydable Pat Guinette.
Oh!
Mais comme je disais toujours, ça va être très facile de le battre, ce jeune homme-là. Il traite un peu trop Marimé, il se concentre pas assez sur la lutte.
En plus, quelqu'un a brisé, ça va pouvoir en profiter. Hein. Depuis que Marimé est marié, j'ai entendu dire que ce n'était plus le même lutteur.
Ah, il est complètement démoli, abandonné les gyms, ça va être une bouchée de pain, comme on dit.
Tu pourrais avoir Marimé dans ton coin, question de le déstabiliser davantage.
Mais à passer des belles valeurs, Marimé, mais faudrait pas qu'elle se fie aux articles du Journal de Montréal qui ont paru les derniers jours, là, mais non, pas assez de belles valeurs, Marimé.
Ben écoute, JF, j'imagine que ta limousine t'attend pour aller veiller au Dagobert ce soir, t'es à Québec, c'est ça?
Ouais, on va faire une petite tournée Dagobert-Maurice. Ensuite, ça se termine dans la suite présidentielle. Puis, ça devrait passer ce soir. Vous allez avoir le DVD sur les tablettes dans quelques semaines. Donc, je viendrai vous en parler.
Ben, merci beaucoup, Ansem JF. Et puis, la prochaine fois, s'il te plaît, avise avant de te présenter dans notre studio comme ça. C'est pas très, très poli, hein, même si t'es le champion.
Non, mais j'ai des contacts à votre poste de radio, là. Moi, je vends des CD copiés de chansons country, donc je suis très, très plugué à votre studio.
Bon, ben écoute, on te laisse aller, Handsome. Merci beaucoup, hein.
Salut, JF.
Continuez votre excellent show, puis vos excellents jeux de mots, là, je prends des notes.
Merci. Salut, JF.
Ciao.
Bye. Sacré JF, hein?
Je pense que c'est la personne qui s'est nommée le plus souvent de tous les invités qu'on a dû avoir en quatre shows, Patrice.
Je m'attendais jamais à ce qu'il devienne champion un jour ou l'autre de la NCAA.
Il a déjà été managé par le méchant Luigi Cinette et je suis pas mal sûr qu'à ce moment-là, lui non plus se voyait pas champion de la NCAA un jour.
Donc, on va continuer sur notre lancée parce que je pense que le sujet du jour, c'est vraiment la sortie de ce fameux DVD. Pat, est-ce que tu te rappelles d'une autre rivalité qui a eu autant d'impact que Bret Hart versus Shawn Michaels?
Ben écoute, c'est parce que cette rivalité-là, ce qu'elle a de spécial, c'est que c'était une rivalité qui a dépassé les câbles. C'était plus que uniquement dans l'arène. C'est une rivalité qui est devenue à quelque part personnelle. Au même moment où, ben, en fait, cette rivalité-là a mené à une autre rivalité à la WWF dans le temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que le Survivor Series de Montréal a fait en sorte que Vince McMahon est devenu par la suite un personnage. Est devenu vraiment, a eu son rôle à la WWF en tant que, justement, Chairman of the Board. Vraiment, c'était le boss, mais le monde le savait. Mm-hmm. C'était pas quelque chose qui était caché, mais en même temps, il le jouait pas dans les émissions de télévision ou quoi que ce soit.
Ma question était pas je veux pas savoir si c'était un précédent à d'autres, mais avant cette rivalité-là, est-ce qu'on a connu une rivalité aussi intense, autant à l'arrière-scène que sur l'arène, entre deux lutteurs dans les années 80?
Ben écoute, je pense que Hulk Hogan avec celui qui ça on appelle le géant ferré ou Andre the Giant, je pense que c'est quelque chose qui a été qui a bien marché pour donner le main event de WrestleMania 3. Mais tu vois, en y pensant, je te dirais qu'une des meilleures rivalités que j'ai aimé dans les années 80, ça a été Hulk Hogan et Macho Man Randy Savage. Ce que j'ai aimé de cette rivalité-là, c'est qu'elle a été montée, elle a été buildée sur une année complète. À WrestleMania 4, au moment où Randy Savage remporte le titre dans la finale du tournoi face à The Million Dollar Man Ted DiBiase avec l'aide de Hulk Hogan, l'ancien champion. Déjà, on savait qu'un an plus tard à WrestleMania 5, c'était pour être Hogan-Savage et que Savage était pour faire son heel turn sur Hulk Hogan. C'était pas annoncé comme aujourd'hui alors qu'on annonce un an d'avance la finale du prochain WrestleMania entre The Rock et John Cena, mais c'était connu, c'était les têtes dirigeantes de la WWF savaient où ce qui s'en allait à ce moment-là, chose qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, mais c'est vraiment une rivalité qui a été peut-être plus courte, mais qui a été très 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 wow. intense parce que en plus elle a été commencée sur les ondes de NBC alors qu'à ce moment-là la WWF avait une émission qui s'appelait Saturday Night Main Event.
Ouais.
Et il y avait eu un match entre Hogan et Savage contre les Twin Towers,
Big Boss Man et Hakim,
exactement.
Ouais.
Et qui par la suite il y avait Miss Elizabeth dans le coin qui se fait frapper à un moment donné durant le match. Hogan l'amène en arrière et on avait déjà commencé à voir là, des signes de jalousie et qui tirait un peu de la réalité parce que Macho Man était un être très, très, très jaloux envers Miss Elizabeth et bon, on rentre en arrière après le combat et vraiment là, pète une solide coche, comme on dit aujourd'hui, et c'est là qu'il a fait son heel turn, et je pense que ça a été une rivalité qui a très, très, très bien marché, et d'ailleurs, WrestleMania 5 est un des pay-per-views de la WWF qui a le plus marché,
ouais.
Si en plus on considère le peu de maisons qui avaient accès à pay-per-view dans ce temps-là, puis je pense que ça a peut-être été une des meilleures rivalités que la WWF avait fait avant, là, bien sûr, Hart et Shawn Michaels.
En parlant de jalousie, je suis rarement jaloux de cette personne-là, mais 10 jours en Europe, c'est pas donné à tout le monde. Salut Marc!
Salut, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien.
T'as l'air d'un gars qui est sur le décalage horaire.
Ben écoute, c'est 6 heures plus tard, hein, fait que pour moi, il est comme 3 heures du matin, mais ça faisait drôle parce que ça fait drôle d'entendre une voix de radio, là, tu sais, sur le show, là, quand je suis pas là, il n'y a pas de voix de radio, puis là, t'écoutes Patricia Molloy.
C'est vrai.
Elle a une voix, là, tu sais, de... Tu sais, quand t'appelles dans lui, ben moi, j'appelle pas, là, les numéros...
Non, mais à 3 heures du matin, Marc, t'es souvent debout pourtant.
Oui, parce que je me lève à cette heure-là pour travailler.
Mais Marc, parenthèse comme ça, on parlait de la rivalité entre Hulk Hogan et puis Macho Man Randy Savage, également celle de Andrew the Giant. Quand tu faisais partie de la WWF, est-ce que t'as déjà été témoin de des chicanes backstage?
Ben oui, j'étais témoin d'une des plus grandes chicanes backstage, David Boy Smith puis Jacques Rougeau.
Dynamite Kid, Marc et Jacques Rougeau.
Dynamite Kid, excuse-moi Pat.
Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur ça?
Bof, t'en parles-tu dans le livre, Pat?
J'en parle en long et en large. Raymond Rougeau nous raconte comment ça s'est passé de A à Z et j'ai l'intégrale de Raymond Rougeau dans le livre.
Bon, ben, tu vois, nous autres, on était quatre dans le corridor. Il y avait Jacques, Raymond, Pat Patterson et moi. Mm-hmm. Et puis, c'est là que c'est arrivé. Là. Il l'attendait puis il était préparé. Je parle de Jacques.
Est-ce que c'était un... C'était quoi, l'allumette?
Ben écoute, si je peux excuse-moi Marc, en fait l'allumette c'est que souvent les gars backstage se font des coups. Okay? Entre eux autres, et se font des ribs. À un moment donné, les British Bulldogs, et Mr. Perfect, en fait, avaient fait croire au Rougeau que les British Bulldogs là, leur avaient fait un coup. Et la rivalité a commencé un peu de là. Et là, il a fait croire aux British Bulldogs que les Rougeaux étaient vraiment, mais vraiment en beau maudit après eux autres. Puis dans la Mike Kidd, c'était quelqu'un qui était très prompt. Et bon, finalement, ils ont décidé là, de décœurer un petit peu trop Jacques et Raymond. Et Dynamite Kid a, à un moment donné, tout simplement, frappé Jacques et vraiment là, à coup de pied là, et tout ça. Puis Raymond, à ce moment-là, il avait une jambe mal en point, donc il pouvait plus ou moins défendre son frère. Et c'est suite à ça qu'ils ont décidé d'avoir une revanche. Et ce que Marc parle dans le corridor, c'est tout simplement Jacques Rougeau qui, sous les conseils de son père, avait un rouleau de 25 sous dans ses mains et qui a frappé solide Dynamite Kid, lui brisant quelques dents au passage. Et effectivement, c'est devenu là, une des histoires là, qui a été plus grande nature et vraiment que tout le monde parle là, dans ceux qui ont été impliqués à la WWF à ce moment-là.
Mais Marc, toi, en tant que témoin oculaire de ça, est-ce que c'était une scène disgracieuse à voir ou bien est-ce que ça a créé un précédent? Ou
Ah oui, c'est une scène de quand tu vois un gars frapper n'importe quelle bagarre puis il y avait beaucoup de haine parce que Pat, il en dit un bout. Moi, j'en connais encore plus long là-dessus de toutes les choses que Dynamite Kid a faites à Jacques. J'ai pas le physique pour, là, mais avoir eu le physique que Jacques eut, j'aurais fait la même affaire, puis je l'aurais décapité de là, tu sais, c'était incroyable. Écoute, on m'a dit qu'il est même arrivé que Dynamite Kid prenne les ciseaux, coupe les vêtements de Jacques, les mette dans sa valise, Jacques part, il sait pas. Là, t'arrives à quelque part, tu viens pour lutter, tu sors ton maillot, puis il est tout découpé, tu sais.
Ouais, je me rappelle d'un arbitre cet été qui cherchait sa sandale, qui était collée en dessous d'une chaise, et puis c'était pas la bonne chaise, et puis qu'il l'a cherché au moins 20 minutes pour aller démonter le ring.
Ah oui?
Oui. Ce gars-là, il s'appelle Patrice Maltais.
On parle de ce qui est arrivé avec ta sandale, parce que premièrement, tu étais un arbitre, fait que tu vois pas clair, fait que tu n'as pas vu ta sandale. On était
c'est
dans
ça.
Un petit cochon, n'importe qui l'aurait trouvé juste par la senteur.
Marc, tu arrives d'un long séjour en Europe. Ce qui nous intéresse, c'est ton périple en Belgique. Qu'est-ce que tu es allé faire au juste en Belgique, Marc?
C'est la deuxième fois que je suis invité là-bas. C'est une fédération de lutte, une fédération de catch.
Catch.
La B Catch Company, la BCC. C'est une compagnie belge qui m'ont approché il y a environ 3 ans. J'étais là il y a 2 ans pour un premier gala. Et ils m'ont réinvité. Il y avait quand même près de 2000 personnes. Je travaillais avec Christophe Agius, qui était mon analyste, et ben dans le fond, on animait tous les deux. Et Christophe fait la WWE en France à la télé. Il a appris en m'écoutant moi, et dans le temps que je suis avec le tourneur, dans le temps de la WCW, fin des années 90, ben lui, on était diffusé à Canal Plus en Europe. Et c'est là, puis quand je suis parti, ben il a pris le flambeau. Et on a travaillé ensemble. C'était vraiment le fun, et il y avait cette c'était un événement. C'était bizarre parce qu'il y avait zéro combat 5. C'était la première fois que je voyais ça. Il y a eu deux, si je me souviens bien, c'est parce qu'ils font un tournoi pour les ceintures par équipe. Alors, il y avait plusieurs équipes. Et là-bas, comme de raison, en Belgique, il n'y a pas là, de lutteur, de catcheur. Là. Il y en a un ou deux, puis pas plus que ça. Alors, en France, il y en a un peu plus, mais la plupart viennent de l'Angleterre. Ouais. Ceux qui sont bons, là, de calibre international. Mais ils ont quand même fait venir 3 vedettes, et ce qui était pour le match final, il y avait El Generico qui était là, que moi j'avais jamais rencontré, fait que c'était vraiment, vraiment spécial de le voir là-bas, de le rencontrer là-bas. Et il y avait Shelton Benjamin qui est venu d'ailleurs, était de passage à la TOW, je me souviens pas si c'est TOW 6 ou 5 là.
7.
C'était 7?
C'était OW7, il était en équipe avec Dronix face à Sylvain Grenier et Hurricane.
Exactement. Et puis l'autre, là, j'ai un blanc de mémoire.
Tajiri.
Tajiri, c'est ça. Ça a été tout un combat. Écoute, la soirée là-bas, c'est différent. Hein? C'est quand tu vois Pat, il disait que j'écoutais le début de l'émission tantôt, puis Pat disait qu'avec les années, il a appris, il a vu comment se montait un événement, puis tout le kit. Mais là-bas, écoute, il y avait des commanditaires, c'en était fou. Et il y a un des gars qui lutte pour la compagnie Be Catch Company, qui c'est un culturiste. Et oui, il est de meilleur en meilleur, mais il reste que, tu sais, c'est un bon vendeur. Fait qu'il a peut-être vendu 600 à 800 billets, mais du monde qui sont pas des fans de lutte, tu sais. Alors, nous, on a essayé de mettre l'ambiance. C'était pas évident, mais j'ai réussi à y aller d'une couple de bons gags qui pognent plus ici. Là, mais là.
La foule, combien il y avait de personnes, Marc?
2000.
2000.
Ouais, un peu plus de 1800. C'était sold out. C'est le fun, un événement qui est sold out, parce que là-bas, c'était à Frameries, qui était non loin de Mons, qui est pas trop loin de Bruxelles, qui est quand même assez loin de Moscou. J'essaie de t'aider, là, parce que je sais que t'es pas très culturé, Pat.
Comment? T'es pas fin, hein? Ma mère a fait dire que tu me sous-estimes.
Ah, ta mère, ça fait longtemps qu'elle t'a pas connu, hein?
C'est ça, moi je dis, ben, je surestime Marc, d'abord.
C'est ça, exact.
J'étais un Marc. Ah, Pat, un Marc.
Ouais, non, mais c'était bien, bien, bien plaisant. Écoute, il y a un spectacle de Michael Jackson avec des jeunes danseurs à l'entracte. Ça finissait plus. Ils ont trouvé ça trop long. Ils ont décidé de couper la toune en plein milieu du show. c'était sharp. J'ai bien aimé ça. Écoute, le 1, 2, 3, ça s'est fini. Generico qui a reçu le Miss. Comment on dit ça en français? Monsieur Laprade, le mist?
Le mist, c'est-à-dire un nuage de liquide vert.
Exactement. Ça avait l'air plus d'autres choses qu'un nuage, là. Mais il n'y avait pas la grippe, fait que c'était correct. Mais écoute, ça s'est fini, il était minuit moins quart à peu près. Là. C'est tard, s'il vous plaît, là, tu sais. Puis là, toi, t'annonces parce que là-bas, t'animes dans la salle.
C'est ça, je voulais savoir. Tu fais l'annonceur même, tu décris le match?
Exact, exact. Je fais l'annonceur, j'avais sorti mon tuxedo serré et en plus de faire l'annonceur du ring, ben je fais les commentaires pour le monde, tu sais. Fait qu'on décrit, fait que C'est spécial.
C'est très spécial. Il y a une promotion ici au Québec qui faisait la même chose. Et oui, exactement. Et c'est quelque peu irritant, je te dirais. Je sais pas comment est-ce qu'on le vit quand on le fait nous-mêmes, comme toi, là, tu le fais. Je sais pas comment c'était, mais pour quelqu'un qui est dans la foule, c'est assez spécial.
Ben, si tu regardes, quand j'avais été à Granby, j'avais été avec Sly puis JF Kelly. Et puis, c'est sûr que ceux qui le faisaient à Granby, il n'y avait pas ma voix, là.
Je m'attendais à quelque chose du genre de ta part.
Mais il était plus grand, par contre.
Oui, mais quand t'es assis, ça paraît pas. Écoute, ça m'a permis, j'ai eu un voyage de rêve, parce que, tu sais, quand ces gens-là payent ton billet d'avion aller-retour, t'offrent un salaire, parce que contrairement à plusieurs d'entre vous, moi, je fais ça pour l'argent. Et là, après ça, tu peux profiter, j'étais déjà là. Alors, je suis parti juste pour faire un petit topo rapidement après le gala. Je suis allé à Reims découvrir les caves de champagne, de pommerie. Quand je dis les caves, sentez-vous pas viser les deux pattes, là.
T'es allé faire ta première partie de voyage de noces, Marc?
Ça a été le fun, oui. On a visité des églises, tout ça, mais j'ai pas osé faire la demande. Et puis, écoute, on est allé dans la Bourgogne visiter le domaine Nudan avec du vin. C'était débile mental. 3 jours à Paris. On était près de la Tour Eiffel. Écoute, ça a été vraiment écœurant. Puis tout ça grâce à un contrat que j'ai eu en Europe.
Ben, finalement, tu as dépensé tout l'argent que tu as gagné là-bas, puis tu es revenu encore plus pauvre que quand tu es parti.
Exactement. Exactement. Mais c'était voulu, ça. T'sais.
Okay.
Je vais là-bas, je vais en profiter, puis regarde, j'étais parti 12 jours, ce qui est beaucoup dans mon domaine, parce que c'est la période dans l'animation, de la période d'Halloween, que j'ai beaucoup d'événements, la période de Noël qui s'en vient. Mais je voulais le faire, puis je suis bien content, puis j'espère, on a fait tellement de bons jobs, et puis d'y retourner, là, parce que si vous avez la chance, là, c'est tellement débile, l'Europe, comment c'est beau. Là. C'est vieux. Juste dire une petite anecdote rapidement. Avec ma copine, elle m'a initié au tennis. Et à un moment donné, on est allé jouer à Reims, ou ce qui est le champagne. Puis, à un moment donné, on s'en allait vers les courts de tennis. Bon, je passe devant une bâtisse. Puis là, je regarde, c'est écrit, c'est ici que le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, je crois, a été signé. Mais tu sais, j'étais là où tous les dirigeants autour d'une table ont ratifié le traité qui mettait fin à la guerre. Tu sais, tu dis, tabarouette, c'est quelque chose, tu sais.
C'était des beaux souvenirs pour toi qui as vécu l'époque en plus, Marc.
Moi, j'ai vécu même la première guerre. Quand j'ai commencé, on voyait juste en noir et blanc, nous autres, là, avec nos yeux.
Plus sérieusement, Marc, est-ce que les promoteurs là-bas, ils ont une date futur pour un prochain événement de lutte?
La date est pas encore connue, mais vu qu'ils ont fait les quarts de finale pour le championnat par équipe, c'est sûr qu'ils vont en avoir un autre. Reste à savoir, je pense pas que je vais être sur le prochain. Je vais peut-être être là dans 2 ans, malgré que le promoteur en chef, il est venu passer une semaine ici au Québec. D'ailleurs, je l'avais amené voir Knights of Champions à Buffalo. Écoute, depuis qu'il est retourné là-bas, il y a les Bleus, puis il pense venir s'installer au Canada.
Il a
tellement adoré le Québec, puis il a tellement aimé le monde, mais je voulais pas présenter les gars, là. Mais...
Ah, moi, je l'ai connu une fois dans un pub où on allait faire un tour avant que tu tombes en amour.
C'est vrai. Le pub où la fille connaissait Pat Laprade, mais qu'il parlait plus, là.
Donc, Marc, la finale pourrait avoir lieu à Montréal, peut-être.
Non, mais sérieux, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans la tête s'il reste là-bas puis il continue? Moi, j'y mets dans la tête de faire la TOW contre l'Europe. Tu sais, mettons, moi, j'amènerais, exemple, 6 ou 8 lutteurs de la TOW contre les meilleurs de l'Europe. Là, tu sais, on ferait un genre de l'Europe contre le Québec, là, tu sais, quelque chose du genre, je pense que ça serait débile, puis je ferais vivre une aventure aux lutteurs. Tu sais, j'écoutais Handsome GF. tu sais, il parlait de son vidéo porno qui est en train de tourner dans le bout de Québec. Mais tu sais, lui, il sort, hein? Il sort Terrebonne, Québec, tu sais. Waouh, c'est gros, là. Mais tu sais, un gars comme JF, tu l'amènes là-bas, là, avec ses culottes de panthère, de comment est-ce qu'elle s'appelait? Urta Kit, là. Il a le même kit que Urta Kit dans Batman. Il découvrirait tellement de choses là-bas, là, tu sais, c'est... Puis les gens, là, en Belgique surtout, là, et que les gens nous disent qu'ils se rapprochent beaucoup, beaucoup des Québécois. Sont faciles d'approche, ils aiment ça rire, puis tout ça, tu sais, fait que... Pas de mes jokes, là, mais ils aiment ça rire.
Ben ça, même à Montréal, c'est pas tout le monde qui rit de tes jokes, Marc, donc on s'entend bien avec eux autres là-dessus.
Exact, c'est pour ça que je l'ai dit, Pat, c'est ça.
Marc, on va te laisser aller te reposer. T'as gagné ton repos bien mérité. Est-ce qu'on te revoit en studio la semaine prochaine?
Oui, je vais être de retour en studio la semaine prochaine. Pensez-y à qui vous voulez de Impact, avec qui vous voulez que je fasse l'entrevue la semaine prochaine. Vous me dirais ça, mais je te dirais que logiquement, je vais être à tes côtés pour mettre un peu de piquant là, dans le studio là, pour les trois prochaines semaines, c'est promis.
C'est bon, Marc, écoute, on va envoyer le message à nos nombreux fans qui nous écoutent via le site Internet. Pourquoi pas qu'ils nous enverraient des suggestions d'invités? C'est que t'en penses, Pat?
Ouais, ça pourrait être une très bonne idée, ou via nos Facebook, à toi ou à moi, Patrice.
C'est ça.
J'ai une idée, Pat.
Oui, vas-y.
Ben, c'est pas toi, l'autre Pat.
Ouais, mais c'est pas grave. T'as dit Pat, j'ai répondu.
Il me reste j'ai reçu des DVD de la TNA, de Impact.
OK.
Peut-être que dans les prochaines semaines, j'ai toutes sortes de DVD, là, de leur histoire. Tu sais, qu'on pourrait faire un concours, puis faire tirer ça avec les restants de tes chandails de radio de Radisson.
OK, c'est correct. C'est fini, cette histoire-là, Radisson. Hein. Ça a 2 ans d'ancienneté.
Ça serait une très bonne idée, Marc, et ça pourrait inciter les auditeurs, justement, à nous envoyer des suggestions.
Bon, c'est ça. J'amènerai une couple de DVD, puis on fera un concours, puis je vous montrerai à radio la semaine prochaine les photos de mon voyage.
Merci beaucoup, Marc.
OK, bye.
Bye.
CGLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show, en compagnie de Patrice Valtais et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblés de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblés. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Voici un message amusant. Le monde de Monsieur Fun est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'animation depuis 1984. Vous êtes à la recherche de services pour vos événements des fêtes de Noël? Que ce soit un DJ, un animateur, soirée thématique, fête d'enfants ou autre, le monde de Monsieur Fun saura vous servir. Il reste encore quelques disponibilités pour la période de Noël, mais faites vite. 1-800-66-LE-FUN, 1-800-66...
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Voici un message.
c'est plate à dire, mais je m'étais encore trompé de piton.
tu vas y arriver, mon Pat.
Ça va devenir bon. Après la quatrième émission, là, ça va venir.
40e, ouais.
Salut, Sylvain Grenier.
Salut, Pat Maltais.
Ta-ta-da-da, merci d'être là encore une fois. Sylvain qui faisait la claquette avant d'arriver en studio.
Ouais.
Donc, on a ton invité ce soir, Simon Dean.
Hello, Simon.
Au revoir.
Hey, that used to be my Finnish.
Yeah. It worked well.
Did great with it.
Everyone.
Hell of a run.
Hello, everybody in French land, or Montreal, or top of the world, or wherever you guys are. How you doing?
They're all doing good. So thanks for staying up late with us. I know you have to get up at 5 o'clock in the morning. Doing what you do good.
Very important, yeah. You know.
So we had you a couple years ago, I think it was a year and a half ago, we had you at TOW, where you lost against a midget.
Yes, thank you. I don't know who the guy that was running that show was.
I can't remember either.
Idiot.
What a guy. And we know about your character. Simon Dean was a very entertaining character. We remember you from ECW also.
Mm-hmm.
But I was thinking about you today, and I realized that you brought up a lot of characters who was very successful a couple of years later, because I think Supernova, if we remember back in the days, was a little bit of the Hurricane, wasn't it?
Yeah, Supernova, I was friends with Shane for a long time, and I was a superhero when he was running around North Carolina as one of the serial thrillers with a guy named Mike Maverick and some other guys. We joked about it a couple times. I mean, Shane, when he did it, the Hurricane in WWE, he went all out. I mean, he did it with conviction. He was a great superhero. He was really into it. I wasn't booked as a superhero in WWE. I mean, when I first got signed there, I went to OVW, and I had a group called the Jersey Shore Click. And basically, you know, they didn't do any superhero stuff with me or anything like that. It was never discussed. It was never brought up. It was as if it never existed, you know. That's
exactly what I want to talk about, because the Jersey Shore gimmick or the Jersey Shore character are now pretty popular now those days, because we have one in WWE. We have one in TNA. Now the Jersey Shore reality show made all that happen. So I think you were a pretty inventive person in the wrestling business, because all those characters, you thought it before they happened.
You're right. I mean, you saw it. I was a superhero before Hurricane. I was, I spent a lot of time in ECW. I used to do a lot of stuff that a lot of guys didn't do,
as
far as moves and different ideas in the ring. In OVW, even when you were down there at Renee, we had the Jersey Shore crew.
Yeah.
Actually, I'm a lifelong resident of New Jersey from the Jersey Shore.
Yes.
I mean, all that stuff you see on the show, I was doing that 15, 20 years ago, as far as, you know, the nightlife and all that. And we were a bunch of rough tumbling, me and Idol Buggles and Danny Inferno and the girl that we had with us, Trudy. We were great, and they just... Some of the writers saw, and I guess they just felt that for whatever reason it wouldn't work, or Vince wouldn't book it, or whatever. I mean, who knows? Who cares? I mean, I think they lost touch in some reality of what draws and what doesn't to some degree. But it was a great idea, and we should have been put on TV as such, and we weren't. So what are you going to do?
Let me translate for French frog.
T'es bien traite.
Come on. Je parlais à Simon Dean, puis je lui disais que durant sa carrière, il y a eu beaucoup de différents personnages, mais il était très inventif, très créatif avec ses personnages. Avec ses personnages, parce qu'il y a eu beaucoup de personnages qui sont maintenant populaires ou qui ont été populaires, mais lui, il les a fait 10 ans avant que ça devienne mainstream. Comme un super-héros, il était Supernova. Et après, Hurricane est devenu très, très populaire à WWE. Il y avait aussi le Jersey Shore Crew à l'OVW dans le début des années 2000. Et maintenant... On a Alex, pas Alex Riley, mais on a avec le Fist Pump à la WWE. Le Fist Pump. On parle de. C'est quoi son nom?
Ben, on a eu Snooki à WrestleMania qui fait partie.
On a eu Snooki de Jersey Shore, mais on a eu de TNA aussi, on se souvient de.
C'est ça son nom, il a les mêmes cheveux que toi.
Ouais,
je
à peu
me
près.
Rappelle pas.
Il est moins bon, mais exemple.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
So, Simon, we want to talk a little bit aside of wrestling move, and I want to talk about the office t- time you had in WWE, yeah, because some people don't know you were in charge of talent relation at one point for OVW, and it was a pretty big position, and I think you could have gone really far. Talk to us about your experience there, what you see, and what you got from it.
I mean, you knew from day one. Some people don't know really the background here. Sylvain and I became friends probably his first week that he popped in OVW, and he was supposed to train to be a referee. Nope. And he refereed a match on pay-per-view, and a few months later, he was a tag team champion. He got to pass torch to him from Rocky. You know, he's going to pass the torch to Orlando. You. But
final, he's going to be there.
Some of you's going up, some of you's coming down. But me and Sly always got along. When we were on Raw together, we traveled. Sly and I did most of the driving, and we just chauffeured Rob Conway around.
Exactly. We talked about that last week.
Me and Sly got drafted to SmackDown in the same draft, yeah. So we were travel partners again with a girl who couldn't sing, a guy who thought he was a pirate. So, yeah, me and Sly were always together. So when I eventually left SmackDown and took a job in behind the scenes, I was handpicked for that by Johnny Ace and Vince. Tommy Dreamer, who had the position, was going to go back to ECW. In truth, Tommy never wanted to do it. He didn't like it. So I took it over. I had to move to Connecticut from Louisville. I took a hit, too, financially. I mean, it was about, I was making half in the talent relation position that I was.
Really? That much?
Yeah. I mean, my best year, yeah, I made about $70,000 a year with talent relations, which you figure if you're an executive in a, you know, yeah, Fortune 500 company, you'd probably make a little bit more, but I didn't care because
it was a start.
Yeah. And plus, I mean, Sly knows better than anybody. I had become so disenfranchised with going to SmackDown. There were just so many people that I grew to hate seeing each week. And I hate saying the word hate, but it's the truth. Mm-hmm. I mean, between some of the wrestlers who were there that I couldn't stand to be around, and some of the writers and agent guys and just pieces of garbage that I couldn't stand, it was a real easy decision for me to take the job behind the scenes because at least I figured I could do some more good there than I could in the ring.
Can we have some names?
I was there. Yeah. I said I had to move, and I left Sly on his own where he became a model, and I don't even know what he did. But while I was there, I was in charge of, you know, finding talent and hiring talent. I hired Sheamus, Drew McIntyre, Santino, Tyson, Natty, Ted DiBiase Jr., Evan Bourne. Kofi Kingston was my first guy I hired.
Wow.
Off the top of my head. So I was, you know, I took the job pretty serious. I tried to get a lot of the guys raises. I took care of them. You know, I spoke up for the guys. I tried to institute some different learning procedures. But I kind of got the vibe about a couple months in that there was just too many people behind the scenes. It was like a Bruce Pritchard or Michael Hayes or just some other guys that would constantly, I'd have to hear about how they would badmouth me for this or that, you know, that I never drew money, how could I be in that position? I mean, there's so many guys that were just so jealous out of something that they perceived to be some fantastic thing. But in reality, man, I was working 60, and when you're in talent relations, I mean, you bust your ass. I was working 60, 70 hours a week. And that sounds crazy, but from the minute my phone rang till the minute I went to bed at night, I always had to put up, just fix problems. I mean, just nonsense. And we hated living in Connecticut. So when I was gone from there, it was, I never looked back. I mean, I got my release from WWE on a Friday, and by Monday morning, I was getting licensed for my loan originations and to do my investment properties on a Monday.
Yeah.
So Friday night I was out of WWE. By Monday morning I was tested out for my licensing for loan origination. So it took me all 3 days. And it was a job that I was already doing while I was in WWE. I just didn't do it a lot because I didn't have time. But I always planned for life after wrestling. I never planned on being a lifer. I mean, even when I took the job in talent relations, I told John on day one, I see myself being here for about 2 or 3 more years. That's it. Because all I wanted to do was be able to put on a resume that I was a, you know, a manager in a major company. But and it helped me to get the position I have now with running the banks.
That's good.
But I never planned on hanging around there for, you know, 10 years.
So let me translate. Simon Dean nous disait qu'il a toujours aimé voyager avec moi, avec Rob, avec le Monsieur Birchall, le pirate.
Vous êtes tombé ami la première semaine que t'étais.
Très rapide avec Jillian Hall. Mais les points qui nous intéressent dans la conversation, c'est vraiment le temps qu'il a passé au talent relation.
Des futures vedettes.
Des futures vedettes, puis qui a engagé. On parlait de Kofi Kingston, on parlait de Sheamus. Donc, il a engagé beaucoup de gros noms qui sont présents aujourd'hui à WWE. Mais il n'a pas aimé son expérience à cause de plusieurs personnes qui essayaient de le stabber dans le dos, des coups de cochon, parler dans le dos, qui aidaient pas
bitchage,
vraiment.
Du bitchage,
des enfantillages, mais c'est comme un petit peu dans n'importe quel business. Mm-hmm. Ça se passe pas juste dans les luttes. Puis lui, il avait toujours pensé à son après-carrière et il s'est toujours dit qu'il serait manager d'une grosse compagnie. Puis aujourd'hui, ben, il dirige une banque. Fait que, il est pas loin de son but.
C'est bon.
So now then you're manager of a bank, so you can loan me a good loan, right?
Yes, brother.
Okay, no problem. No, but seriously, so you have so much experience and so life experience in general. What do you think about the new WWE way? What I mean by way is the way to train guys, the way to promote guys, the way they do business, the matches are different, everybody look the same. What's your vision?
I don't like it. I mean...